Popenko aujourd'hui, c'est Dalida. Chez moi, elle faisait un peu ricaner et en même temps, les parents n'étaient pas les derniers pour danser le twist sur Itsy Bitsy Petit Bikini. Dalida, c'est la France d'après-guerre, des chansons comme des opérettes de poche avec le R roulé. C'est R venu et d'Italie et d'Égypte. Ça, c'était validé chez les Manzoni. Dalida, c'est la France de la fin des années 70. Quand tu regardes une émission qui s'intitule Le Collard au chaud à la télévision, elle a 46 ans et déboule en robe léopard fantastique, fendue jusqu'au-dessous du pubis. Dalida est aussi la femme de mon été 2020. Une amie m'a prêté un livre de Colette Fellous qui s'intitule « Pour Dalida ». Et Colette Fellous écrit « On l'imite quand on a 8, 13 ou 18 ans. Quand on est un homme, quand on est une femme, quand on est gay, quand on est travesti, ou encore quand on n'a pas vraiment envie de choisir qui on est. On l'imite parce qu'elle a continué à faire comme si elle savait faire. Mais non, elle ne savait pas. Personne ne sait jamais. » Le titre de cet épisode de Pop & Co pourrait donc être celui-ci, Dalida, de l'Italie à la France, en passant par l'Égypte, une vérité flamboyante et modeste. Dans la deuxième partie de Pop & Co, on sera aux Antilles et à New York, grâce au musicien David Walters. Ce matin, on soulève le capot d'un de ses morceaux en créole, c'est « Criez-moi », ça veut dire « Appelle-moi ». Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Puisque Dalida est apparue en 1956, lui consacrer un Pop & Co, c'est écouter les aînés, forcément. Et cette émission culte de Jacques Chancel, rien que le générique, ça m'impressionnait, quand il disait le mot.
Radioscopie.
Et le 31 décembre 1979, Chancel passe à Dalida au rayon X.
Radioscopie.
Dalida.
Jacques Chancel.
Quand je disais, il y a longtemps, et puis je le dis toujours, que je suis plusieurs, c'est vrai. Parce que finalement, nous sommes tous une sorte de parlement, et nous sommes tous plusieurs, ce qui fait que, bon, il y a eu la Dalida du début, il y a eu une autre Dalida, il y a eu la Dalida qui se cherchait, qui cherchait la femme, qu'elle avait un peu perdue à cause de son métier, et puis petit à petit, il y a eu cette synthèse entre la femme et l'artiste, et puis maintenant que cette synthèse, elle est faite, l'artiste a envie d'aller un peu plus loin. Et c'est aussi un rêve de petite fille, parce que j'ai toujours rêvé d'Hollywood, je ne suis pas la seule d'ailleurs, je crois que nous avons tous rêvé dans notre enfance, dans notre jeunesse, de Fred Astaire, de Sid Charisse, de Rita Hayworth, de Ginger Rogers, je les voyais sur l'écran, et puis j'avais un jour envie de monter sur les planches et de faire comme eux. Et bien voilà, c'est une chose faite. Finalement, c'est un peu un rêve d'une petite fille, là, que je réalise.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir, un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à l'éclair où l'on s'en lasse.
Mettez-vous à votre aise, hein, comme d'habitude. Hein.
Oui, oui.
Moi, je m'adapte très facilement.
Je vais juste poser mon sac.
Je suis à Vaucresson, chez un musicien qui a travaillé pour Charles Aznavour. Il a aussi écrit le générique de Taratata. C'était en 1973. Et l'émission était présentée par Jacques Martin. Il a surtout été arrangeur de Dalida. Il s'appelle Tony Rallo, ou plutôt Tony Rallo.
Rebecca Manzoni.
Oui, c'est ça.
Manzoni, c'est des origines ?
Italie, ouais.
Italie ?
Ouais.
Ah, ça me ressemble. Ah oui, en plus, avec Dalida, alors là, C'est la première, une des premières choses que m'avait demandé Orlando. Il m'a posé une question extrêmement simple. Il m'a dit, est-ce que tu sais faire des arrangements italiennes? Et c'est là qu'on a fait Gigi l'Amoroso. Et les mandolines, il y a tout.
Ouais, là, c'est l'Italie.
Je vais vous raconter avant de vous quitter l'histoire d'un petit village près de Napoli.
Elle me disait chaque fois que je finissais la réalisation musicale, tout ça, elle me disait, mais Tony, je comprends pas, pourquoi quand j'écoute là, comme ça, il n'y avait pas sa voix, hein, c'était juste avant de faire la voix, mais quand j'écoute ça, comme ça, c'est merveilleux, tout ça, j'entends pas tout ça quand je chante. Et j'ai chaque fois, je disais, mais c'est pas moi la vedette, c'est toi, ma chérie, c'est toi qui... Tu vois que c'est toi qui chante, c'est pas moi.
Tony Rallo s'est souvent retrouvé en studio avec Dalida et son frère Orlando.
Lui, il voulait un truc, et Dalida, elle disait, non, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Donc, il y avait des espèces de disputes à l'italienne, hein, des petites disputes à l'italienne, c'est-à-dire, on se dispute, mais on s'aime. Alors, quand en studio, quand il était, chérie, alors, première fois, ok, d'accord, 30 secondes plus tard,
écoute,
ma chérie, c'est pas ça, ouais, je sais, jusqu'au moment où il me disait, moi, j'en peux plus, vas-y, dis-lui. Alors, moi, je prenais le micro, Dali, ma chérie.
Attends.
Oui, je sais, c'est mon frère qui te dit de m'appeler, oui, mais, tu vois, c'était cette espèce de, c'était une sorte de Gigi l'Amoroso en studio, quoi.
Tu entends? Tu les entends, Gigi? Ils sont tous là. Ils ont dû te reconnaître à la gare. Chante, Gigi, chante. C'est ton public. Chante pour eux. Chante pour moi qui n'ai jamais su te parler. Oui, chante. Bravo, Gigi, chante. Bravo. Carmela, Carmela.
C'était pas tellement difficile sur un plan de l'écriture, tout ça. Non, c'est un plan difficile sur le plan de la réalisation. Quand elle disait « Arriva Gigi », il fallait qu'on soit tous ensemble, synchro. Ça, c'était pas facile du tout. Quand je dirigeais les musiciens, moi, il fallait que j'ai dans ma tête pratiquement Dalida qui est en train de chanter, mais il y avait personne dans mon casque avec les musiciens.
Oui, parce qu'on enregistrait les musiciens d'un côté et sa voix de l'autre.
Oui, les voix, on les faisait après. Il fallait donc bien calculer les blancs. Parce qu'avec les ordinateurs aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple à faire. Mais à l'époque, c'était très compliqué. On a exploré quelque chose qui ne s'était pas fait depuis Bambino.
Mais oui, c'est avec cette chanson que tout a commencé. On est en 1956.
Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs.
Allô ? Je vous présente Barbara Lebrun. Elle vit à Manchester, où elle est enseignante. Il y a une semaine à peine, Barbara Lebrun a publié « Dalida, mythe et mémoire » aux éditions Le Mot et le Reste. Dans un chapitre, elle a reproduit le texte imprimé sur la pochette du tout premier album de Dalida en 1957, et je lis « Elle est très jeune et belle, de cette beauté latine et méditerranéenne qui met du soleil au fond des yeux et sur le visage, et la chaleur sombre des nuits sur les cheveux. » Le disque est produit par Eddie Barclay.
Alors quand Eddie Barclay la repère, il dit qu'il est, elle a un genre grande bringue qu'il va falloir modifier. Et il travaille d'arrache-pied avec sa femme Nicole Barclay et avec d'autres amis pour lui faire perdre des kilos, lui faire perdre son goût de bijoux qu'il considère comme de mauvais goût et trop oriental. Donc dans la fin des années 50, il veut la transformer en l'image parisienne d'une Italienne chic. Et donc ça passe par des robes de couturier, Christian Dior, des robes très cintrées à la taille, avec des bustiers serrés et des petites bretelles. Elle a toujours les épaules et les bras nus pour vraiment montrer son bronzage et sa provenance suggérée d'un pays méditerranéen.
En fait, elle a été plus sexy que Gloria Lasso, et moins sauvage que Bardot dans les années 60.
Oui, c'est ça. Alors, Effectivement, alors c'est marrant parce que elle a qu'un an de différence, un an de plus que Brigitte Bardot. Elles sont starlettes en même temps, en 1956-57. Mais autant Bardot, elle, adopte un look finalement de gitane, avec les cheveux défaits. Il y a un texte de Simone de Beauvoir qui dit que Bardot se coiffe avec les doigts. Et elle danse pieds nus, par exemple. Et elle met des pantalons courts. Elle a tout un vêtement de garçonne et de jeune fille sauvage qui menace la virilité ambiante. Mais Dalida, c'est tout à fait différent. Elle est sexy, mais plus comme un bel objet accessoirisé avec du maquillage. Elle est certainement pas coiffée avec les doigts. Elle a un chignon ou bien les cheveux brossés, mais bien modelés sur une épaule. Et comme elle ne danse pas dans les années 50 et 60, elle ne se déplace pas, elle n'a pas du tout le côté sauvage, jeune femme qu'on ne peut pas maintenir en place que possède Bardot.
La famille de Dalida est italienne, mais c'est au Caire qu'elle est née. Et il lui faudra du temps pour évoquer ses origines égyptiennes.
Quand elle arrive en France dans les années 50 et 60, eh bien, en 1956, la France a perdu le contrôle du canal de Suez avec les Britanniques. Mentionner une origine égyptienne, c'est pas très stratégique pour lancer une carrière d'artiste. Mais au fur et à mesure des années, dans ses interviews, Dalida rementionne le fait d'être née au Caire et se met à parler de ses origines égyptiennes avec plaisir, avec goût, mais seulement à partir des années 70, quand sa carrière est suffisamment installée en France pour qu'on commence à l'inviter à faire un retour sur ses origines, à commenter sa propre vie et commenter sa propre carrière. Et c'est là qu'elle commence à parler de son enfance au Caire.
Donc ça veut dire qu'il a fallu que sa carrière soit suffisamment installée pour qu'elle parle de ses origines égyptiennes ?
Oui, il y a de ça, mais il y a aussi bien sûr le contexte français qui lui évolue. Et puis, autant les Français s'éloignent diplomatiquement et politiquement de l'Égypte et bien sûr de l'Afrique du Nord au cours des années 60, autant après 1967, après la guerre des Six Jours, il y a un petit reversement où les Français retendent la main vers l'Afrique du Nord, renouent des relations diplomatiques avec l'Égypte. Et à ce moment-là, il y a aussi tout un contexte international qui favorise pour Dalida la mention d'origine égyptienne et puis pour ses producteurs la nécessité de la faire chanter en arabe.
Vous êtes en train de me dire que la carrière de Dalida épouse la géopolitique française.
Oui, c'est indiscutable.
En 77, Dalida reprend une chanson égyptienne du début du siècle. Je vais. Ça vous embête si je prends une chaise là ?
Ah non, voilà. Vous prenez comme chez vous.
D'accord. Être chez lui et se sentir comme chez soi, chez Tony Rallo, le musicien qui a arrangé ce morceau, Salma Ya Salama.
Pour Dalida, ça représentait à Salma Ya Salama le début d'une carrière des chansons originales en arabe. Je suis d'origine italienne, mais je suis né en Tunisie. Pareil, c'est une musique de Jeff Barnell. C'est pas son vrai nom, mais enfin, il est d'origine italienne, il est né au Caire. Vous voyez ce mélange, ce sacré mélange qu'on cherche, nous à faire, mais nous on avait déjà.
Vous l'étiez déjà ce mélange en fait.
Oui, j'ai eu des réminiscences dans mes oreilles de la musique orientale. J'adore la musique orientale. Bon. Je m'en suis jamais servi, sauf là. Alors ce qui était curieux pour Salma Ya Salama, j'avais réussi, alors là c'est, je me flatte, hein, je m'envoie quelques fleurs. Mais j'avais réussi à faire de la musique arabe européenne. C'est-à-dire des sonorités européennes pour une musique censée être orientale. C'est typiquement musique orientale. Voilà. Et donc, quand on mélange ce truc-là, quand on le mélange avec, je sais pas moi, un instrument quelconque, une clarinette, voilà, dans le style oriental, tout de suite, on a une couleur formidable. Et Du coup, j'avais pratiquement tous les chanteurs arabes de Paris qui me téléphonaient pour que je leur fasse des arrangements. Mais je vous jure que c'est vrai. C'est incroyable.
Italie, Égypte, Tunisie, c'est aussi cette géographie-là, la chanson française des années 60. Et en 1960, Dalida y ajoute aussi la Grèce, avec les enfants du Pirée. En 2001, sur un album qui s'intitule Auguri, Dominika reprend la chanson à son tour.
Brouillé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un coup sec, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime sous leur bonnet orange. Tous les visages d'anges des enfants du pied. Je rêve aussi d'avoir un jour un enfant, deux enfants, trois enfants jouant comme eux. Le long des quais flâne toujours un marin, deux marins, trois marins aventureux. De notre amour on se fera un amour, dix amours, mille amours noyés de bleu. Et nos enfants feront des gars que des filles un beau jour à leur tour rendront heureux. Mon Dieu que j'aime ce port du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets d'eau. Mon Dieu que j'aime sous leur bonnet ange, tous les visages d'anges des enfants du Pirée.
Inter. Rebecca Manzoni, Pop & Co.
Pour ceux qui n'étaient pas là à 11h, au début de cette émission, je disais... Puisque Dalida est apparue en 1956, lui consacrer un Pop & Co, c'est écouter les aînés.
Forcément.
Et maintenant, rebelote.
Radioscopie.
Cela fait 25 ans que je chante, et puis à un certain moment, je commençais un peu à m'ennuyer. C'est vrai. Parce que finalement, toujours chanter, 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 finalement, sont des chansons d'amour, même si elles sont différentes, mais c'est toujours la même chanson qu'on finit par chanter. Et je me suis dit, il faut quand même faire autre chose. Et cela est venu un peu avec la disco. Et j'ai commencé un peu à bouger, un peu à danser sur la scène. Parce que c'est la première fois de ma vie que je vais faire ce genre de choses.
Moi, quand j'ai commencé, ça marchait un petit peu moins bien.
Tony Rallo, l'arrangeur de Dalida.
Là où c'est devenu très sérieux, c'est lorsqu'on attaquait le disco. Alors là, ça a été quelque chose, un deuxième souffle. Puis là, j'ai poussé le bouton un peu loin même. J'ai osé des choses que je n'ai pas osé avec d'autres gens.
À quoi vous pensez ?
Par exemple, J'attendrai.
J'attendrai. J'attendrai toujours ton retour.
J'attendrai fut créé en 1938 par Rina Ketty. Il y eut des reprises de Tino Rossi, Jean Sablon, Joséphine Baker. L'adaptation qu'en a fait Dalida avec les arrangements disco de Tony Rallo n'ont pas plu à tout le monde.
C'est vrai que nous, les Français, on a toujours ce truc, autrefois, les machins, les ta. Là, on a fait abstraction de tout ça. C'est devenu une chanson gay, en fait. Tu veux enregistrer, j'attendrai, à ma manière. Et on l'a fait à ma manière. Mais j'avais inséré dans l'arrangement un passage carrément de jazz. C'est Dalida, c'est pas du jazz, hein, c'est de la variété. Et pourtant, ça marchait, là. Là où ça a été le génie, c'est qu'elle a fait une espèce de chorégraphie qui a mis en valeur, mais très en valeur, ce passage. Parce que là, elle pouvait danser, elle pouvait faire ce qu'elle voulait. Et c'est ce qu'elle a toujours voulu faire. Et évidemment, suite à ça, après, la porte était ouverte. Alors après, on a attaqué tous les amis mucho, on a attaqué tous. Et ça a duré quand même pas mal d'années. Mais après, tout le monde voulait faire ça. Macias, qui n'ont rien à voir avec...
Enrico Macias.
Oui, il voulait faire du disco. Tout le monde voulait faire du disco.
Parce que Dalida s'était lancée là-dedans, notamment avec des chansons du patrimoine, Zou.
Ben oui.
Ben je vous remercie beaucoup.
Oh, ben je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Gigi entra au paradis. Déconcerté, pas sûr de lui. Fallait-il seulement qu'il sourit. J'étais tous fous de G. Il donna des galas gratuits. Les saints ont chanté toute la nuit. Il leur parla de ses amis. Un jour allait rejoindre G.
En tout cas, ça n'a pas plu à tout le monde que Gigi parte au paradisco.
Radioscopie. Alors Dalida, je m'aperçois que grâce au disco, vous avez su bouger. Moi, je pensais que le disco était une mode, donc elle était vite démodée, cette mode. Moi, personnellement, je ne crois pas au disco, beaucoup. Autant le jazz restera, autant le rock peut rester, autant le disco est passager et totalement commercial. Mais vous êtes entré peut-être dans le commerce,
vous avez raison. Oui, mais vous savez, mais...
Non, le disco dans une boîte de nuit, dans un bal de campagne pour danser, oui.
Ça, bien c'est... sûr, bien Bravo. Sûr, bien sûr. Mais disons que le disco m'habillait bien. Et alors à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas, je prends mes anciens succès. D'ailleurs, comme j'étais la première à avoir pris un ancien succès, que c'était J'attendrai, et je l'avais mis en disco, et que ça avait marché, que c'était devenu numéro un.
Et Bambino
France.
Est en disco aussi.
Eh bien, c'est-à-dire, oui, mais...
Alors tout à l'heure, j'ai dit, Dalida, que l'on croyait en bout de course. Alors je disais cela pour vous énerver un tout petit peu, et vous n'avez pas bougé. Et je finis par croire que c'est vrai, alors.
Non, pas du tout, la preuve que ce n'est pas vrai. Sinon, je ne serai pas là en face de vous d'abord. Et ensuite, je ne ferai pas le Palais des Sports du 5 au 20 janvier. Parce que finalement, au bout de course, non, la preuve que j'ai eu de numéro 1 cette année est que tous les ans, j'ai eu numéro 1 au hit parade. Donc, mais parfois, cela se passe de l'intérieur. Et on se dit, bon, il faut faire autre chose, il faut remuer un peu. Et j'ai l'impression vraiment de renaître à nouveau.
Dans cet entretien, d'ailleurs, avec Jacques Chancel, à Radioscopie,
Barbara Lebrun.
Elle essaye de vraiment développer l'argument du plaisir physique et émotionnel qu'elle prend à bouger. Elle explique qu'elle a pris autant des cours de yoga que de danse avec son professeur américain et qu'il y a tout un monde spatial et physique qui s'est révélé à elle. Et effectivement, à plus de 45 ans, mais elle en est ravie, elle en est bouleversée en fait. Et cet entretien avec Jacques Chancel est fascinant, mais on sent un gouffre entre, d'un côté, le journaliste, homme, tout à fait sûr de son bon droit sur une radio de service public, et puis, cette chanteuse qui a des intérêts intimes, physiques, qui n'intéressent absolument pas son interlocuteur.
Oui, ça lui passe complètement au-dessus à Jacques.
Elle va vous raconter la suite.
Et maintenant, dans Pop & Co,
elle va vous raconter la suite.
Je passe un coup de fil.
Bonjour, vous êtes sur la messagerie Orange de Vincent Cléa. Veuillez laisser votre message après le bip.
Bonjour Cléa Vincent, c'est la première fois que je laisse un message public sur une boîte vocale personnelle. Je sais que vous aimez Dalida et que vous avez repris une de ses chansons. Je voulais savoir ce qu'elle représentait pour la jeune chanteuse que vous êtes. Et Cléa arriva.
Je trouve ça assez fort d'avoir mêlé le disco au français avec un accent à couper au couteau. Hyper dansant, ça groove à fond. Hein. J'ai à cœur quand je fais de la musique de faire danser et franchement je trouve que cette période disco de Dalida est quand même très dansante. Elle a quand même été bien dans le game de A à Z. Elle était toujours là où il fallait être pour faire un succès.
Et pour parler précisément du corps de Dalida, qui était ultra féminine, est-ce que ça vous parle, ça, aujourd'hui, vous qui avez... vous avez quel âge ?
35 ans.
35 ans. Est-ce que ça vous parle aujourd'hui, vous, ça ?
Eh bien, je trouve ça remarquable d'oser monter sur scène avec une robe ultra moulante. Moi qui suis si pudique, de voir une femme comme ça s'ouvrir à 100%, c'est génial, ça m'inspire, ça me donne envie moi aussi d'assumer à fond ma féminité. Et elle montre l'exemple de ce que c'est que de mettre son corps en valeur. Et en réalité, elle a une morphologie un peu particulière parce qu'elle est quand même assez maigrichonne, elle a pas beaucoup de poitrine et elle y va à fond. Ça donne du courage parce qu'elle y va pas à moitié, elle se surfarde. J'adore ça. Comme les travestis ou les drag queens. Elle a inspiré énormément d'ailleurs de drag queens et de travestis, tellement elle y va à fond la caisse dans tous les codes de la féminité.
En 2019, une jeune fille de 27 ans reprend un morceau de Dalida dans une version piano-voix. C'était la carte blanche d'Aloïs Sauvage dans Boomerang.
Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi. Laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Moi, je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je vais, je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Mais moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi, laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Mais laissez-moi danser, mais laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Donc laissez-moi danser, mais laissez-moi, 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 laissez-moi danser, chanter en liberté tout l'été. Donc laissez-moi moi danser, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Quel jour sommes-nous ?
Samedi.
Quelle année ?
1958.
Cette année-là, Jacqueline Joubert présente l'émission Rendez-vous avec. Dans ce numéro, c'est avec Dalida et Jacqueline fait les présentations.
Cette jeune femme s'appelle comment ?
Ah, mon vrai nom ?
Oui.
Eh bien, c'est Yolanda Gigliotti.
Yolanda Gigliotti. Évidemment, c'est pas très commun à prononcer.
Oui, mais c'est pour cela que j'ai choisi Dalida, c'est plus facile à dire.
Vous savez, Dalida, je vous fais une confession ce soir.
Oui.
Il y a 2 ans, je ne pouvais pas supporter votre accent.
Ah, mais vous avez tout à fait raison, parce qu'il était vraiment...
Non, mais vous avez corrigé votre accent. Vous êtes musicienne, d'ailleurs.
Oui, c'est-à-dire, je n'ai rien fait pour. C'est parce qu'exactement comme je suis un peu musicienne, alors c'est venu tout seul.
Il s'est envolé.
Oui, c'est envolé.
Il me choquait, vraiment, c'était dommage, parce que la voix était belle. Enfin, je vous critiquais beaucoup, hein, je peux le dire maintenant. Maintenant, je tiens l'admiration devant vous, alors je peux le dire aussi. En Calabre, on m'a dit qu'il y avait 250 petits ponts.
Eh bien, je ne connais pas du tout la Calabre.
Vous n'êtes jamais allée en Calabre ?
Non, je m'excuse, mais
vous êtes menteuse, Dalida ?
Ah non, je ne suis pas menteuse, je vous ai raconté tout ça, mais je n'ai pas dit que j'y étais, moi.
Mais vous êtes calabraise ?
Oh, oui, pure calabraise.
Alors, vous êtes calabraise élevée où ?
Eh bien, j'étais élevée au Caire, en Égypte.
Ah, et quand vous rêviez de Paris ?
Oh, j'ai toujours rêvé de Paris et surtout je rêvais parce que je crois que Paris c'est la ville où on peut devenir quelqu'un. J'ai toujours rêvé de...
Ah voilà, parce que pour Dalida, il faut devenir quelqu'un.
Bien oui, c'était le rêve de ma vie toujours.
Menteuse, ambitieuse, à travers de longues connaissances.
Je ne sais pas pourquoi ils m'ont accepté dans des cabarets, je n'avais pas du tout chanté.
Parce que vous êtes belle, parce qu'à Paris on aime les jolies femmes.
La vache, me suis-je dit in petto, être jolie fille, étrangère et chanteuse, ça voulait dire avoir des nerfs de judoka dans la France des années 60. Donc je le redis, être une femme dans le showbiz, c'est avoir des nerfs de judoka tout le temps.
Ah oui, oui, oui.
C'est le retour de Barbara Lebrun, autrice de Dalida, Mythe et Mémoire.
Les railleries à son égard, c'est pendant tout le long de sa carrière, dès qu'elle obtient du succès à partir de 57 avec Bambino, et parfois d'ailleurs par ce qu'on considère comme l'élite de gauche, l'élite intellectuelle, donc par exemple Claude Sarraute qui écrit dans Le Monde, ou des critiques littéraires comme André Halimi qui écrit des livres sur la chanson, qui sont extrêmement féroces dans leur mépris pour Dalida, et qui attaquent autant le genre musical dans lequel elle se situe que souvent la personne.
C'était des critiques féroces à quel point ? Qu'est-ce qu'ils disaient ?
Elle est située comme l'emblème de la ringardise. Alors, il y a d'ailleurs son ancien mari, Lucien Maurice, qui, lorsqu'elle est en première à l'Olympia en décembre 1961, fait envoyer une couronne mortuaire juste avant l'entrée en spectacle, en disant « Vive Edith Piaf ». Edith Piaf n'est pas mort à l'époque. Et Edith Piaf est encore bien vivante, mais c'est pour dire « Dalida, vous n'allez pas durer, vous ne représentez pas la grande chanson classique, la bonne chanson française, autant arrêter votre carrière tout de suite ». Alors, la critique la plus féroce et la plus violente à son égard, ça concerne Charlie Hebdo. En janvier 1980, qui font un montage pornographique qui est basé sur une affiche de Dalida qui circule à l'époque où elle fait un grand show au Palais des Sports. Elle est à Califourchon sur une chaise, tout habillée en barésie, avec un chapeau devant l'endroit du sexe. Et puis c'est une image, pour le coup, très très queer, parce que c'est une femme qui a une pose typiquement masculine sur une chaise, comme Marlène Dietrich.
C'est du cabaret.
Dans L'Ange Bleu. Mais Charlie Hebdo publie en double page un énorme montage de ce poster où il pose la photo d'un vagin. Et le professeur Choron dit que ce ne sont pas eux qui sont vulgaires, c'est Dalida. Que Dalida est vulgaire. Elle n'a pas à faire cette pose, elle n'a pas à se mettre à danser à 45 ans. Ce qui sous-entend aussi qu'une femme vulgaire se doit d'être humiliée. Et humiliée par la pornographie.
Ça tourne ? Cléa, vous êtes là ?
Absolument, je suis là.
C'est la musicienne Cléa Vincent. Elle n'a pas écouté Dalida de son vivant quand elle est décédée. Cléa Vincent avait 2 ans.
En fait, mes parents n'écoutaient pas du tout Dalida. C'est un jour, j'ai été frappée par la chanson « Je suis malade ». Et cette chanson m'avait beaucoup, beaucoup émue. Moi, je devais avoir 15 ans. Et donc, c'était la chanson « Je suis malade » parce que je trouvais qu'elle chantait avec ses tripes. Et ça me rappelle un peu le « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Et c'est des chansons qui, quand on est adolescent, peuvent vraiment vous faire pleurer. Donc ça, c'est le premier contact avec Dalida. Et ensuite, figurez-vous que c'est grâce à France Inter.
Ah oui.
Parce qu'on m'a commandé une reprise de Dalida dans le nouveau rendez-vous et j'ai dû me pencher à fond la caisse pour trouver une chanson dans son répertoire qui pourrait me convenir parce que je n'ai pas une voix lyrique et une voix aussi extraordinaire que Dalida, donc il a fallu que je trouve une chanson pas trop difficile à chanter Alors, j'ai réécouté, comme je savais qu'on allait en parler aujourd'hui, j'ai réécouté. Et par moments, elle est emportée par l'émotion. Donc, elle arrive à garder la justesse et le vibrato. Et elle est par moments emportée complètement et elle garde la maîtrise de la musique. Et ça, je trouve ça assez remarquable. Et je trouve qu'à chaque fois qu'elle chante une chanson, ça lui ressemble.
Sur son album Nuit sans sommeil, Cléa Vincent reprend Femme et la nuit.
Les lumières qui s'éteignent ici. Je crois entendre déjà comme un cœur qui bat.
Dans son livre consacré à Dalida, Barbara Lebrun écrit « En 1962, dans un essai sur la culture de masse, Edgar Morin regrette que la culture cultivée des universitaires leur fasse souvent mépriser l'industrie culturelle. Proposant à lui-même et aux chercheurs de ne pas bouder leur plaisir, Edgar Morin conseillait de flâner sur les grands boulevards de la culture de masse. Pour rencontrer le peuple, disait-il, il suffirait d'aller à Dalida.
Le revirement critique positif pour Dalida passe aussi par des journalistes homosexuels. Il y a Michel Cressol qui la soutient énormément dans Libération. Et en 1986, quand elle joue un premier rôle dans un film égyptien de Youssef Chahine qui s'appelle Le Sixième Jour, et bien là, c'est pour le coup toute l'intelligentsia parisienne qui l'accueille à bras ouverts. Elle est en couverture des Cahiers du cinéma, en couverture des Télérama. Il y a un revirement qui passe par son rôle d'actrice dans ce film de Youssef Chahine.
Mais est-ce que la façon dont le regard qu'on a sur Dalida a évolué, c'est-à-dire du mépris de critiques féroces et violentes jusqu'à cette reconnaissance aujourd'hui, est-ce que ça raconte l'évolution de nos goûts aussi? Est-ce que ça raconte un changement dans l'idée qu'on se fait d'une bonne chanson?
Oui, je crois. Avec la trajectoire de Dalida, ça fait assouplir une hiérarchie qui était implicite, surtout dans les années 60, 70 et encore 80, la hiérarchie que la chanson à texte des auteurs, compositeurs, interprètes qui savent tout faire eux-mêmes est forcément supérieure en qualité, en émotion, que la variété. Et cette hiérarchie s'est assouplie, ça c'est très clair. Aujourd'hui, on voit des chanteuses comme Aloïse Sauvage, qui fait des chansons tout à fait sentimentales, qui est très bien reçue par la critique, par exemple par Télérama. Donc, il y a beaucoup plus de souplesse depuis 25 ans, disons, chez les artistes français. Et Dalida, quelque part, a été une précurseur de cette réconciliation des différences, d'être à la fois capable de chanter une chanson à texte, entre guillemets, et puis un truc disco fait pour danser le samedi soir.
Dalida fut étrangère et française, ringarde et cool, cliché et humaine. Elle a incarné la star et le refus de l'arrogance à la fois. Quand elle se donne la mort en mai 87, elle a 54 ans. Dans une lettre écrite à son public, elle écrit « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. »
Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix. Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va,
l'autre qu'on devinait. Au détour d'un regard, entre les lignes, entre les mots et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit.
Pour ce Pop & Co dédié à Dalida, je vous conseille, vous l'avez compris, Dalida, mythe et mémoire de Barbara Lebrun, paru aux éditions Le Mot et le Reste. Il y a aussi le beau roman de Colette Fellous intitulé Pour Dalida chez Flammarion et Le Sixième Jour, film de Youssef Chahine, est disponible en DVD.
Alors, il y avait le code, ensuite escalier C à gauche, et puis deuxième porte à gauche dans le couloir, juste avant l'escalier.
Au bout de ce dédale, dans une cour de Bagnolet à l'est de Paris, il y a le musicien David Walters. Son nouvel album s'intitule Soleil Créole, et ce matin dans Pop & Co, on entre dans les coulisses de ce morceau. Ça s'intitule Criez-moi, et ça tourne sur France Inter. Ce disque, Soleil Créole.
C'est une sorte de fiction.
Comme un film, en fait.
Exactement. Où j'ai mélangé l'histoire de mon grand-père, Nelson O'Neill Walters, et la mienne. Parce que mon grand-père était natif de Saint-Kitts-et-Nevis, une île anglophone caribéenne. Et il y a une période de sa vie où il a décidé de partir vivre à New York. Il était danseur de claquettes, musicien, cuisinier, comme beaucoup d'artistes. Enfin, moi aussi, j'ai fait ça. On a eu plusieurs jobs. Et donc, lui, il décide de partir vivre sa vie de mélomane à New York. Et donc, je sais pas pourquoi, ça m'est revenu et j'ai été chercher des infos. J'ai appelé maman et je lui ai demandé des infos sur Nelson, sur mon grand-père. Et voilà. Donc, j'ai décidé d'écrire cette histoire qui se passe dans les années 70-80.
Et pourquoi les années 70-80, pourquoi pas aujourd'hui?
Parce que pour moi, les années 70-80, même, je dirais même avant, c'est les années psychédéliques, c'est aussi les années où les peuples se rencontrent, où il y a un métissage à New York musical.
Ouais, c'est le moment où New York est à la fois une ville qui craint,
ouais.
Et en même temps, c'est un bouillon de culture.
Exactement.
Il y a le disco,
ouais.
L'arrivée du rap,
ouais.
Le punk.
Oui, c'est exactement ce que vous venez de dire. Et c'est des années des premières fois. Et je trouve que dans les premières fois, on réfléchit pas. Il y a une innocence. Il y a quelque chose de frais qui se passe. Et ça me plaît.
Cet album, Soleil Créole, il a à voir avec des premières fois? Qu'est-ce qu'il y a comme première fois dans ce disque pour vous, David Walters?
Ce disque, c'est une première fois parce que c'est la rencontre avec Bruno Patchwork, le réalisateur et le producteur avec qui j'ai travaillé sur ce disque. Et c'est un garçon qui m'a énormément nourri, cultivé, parce qu'on travaillait toute la journée. Et puis, le soir, il me donnait des références. Il me disait, tiens, sur le morceau Criez-moi, t'as une voix de tête. Écoute, t'as le chanteur.
Et vous avez dit quel chanteur, vous souvenez ou pas, pour crier moins?
On a été faire un tour vers Studio One, tous les chanteurs de reggae, de voix de tête, mais aussi Marvin Gaye. Criez moins, c'est vraiment la référence Marvin Gaye. C'est I Want You, c'est cet album, c'est cette pochette, je sais pas si vous la voyez, c'est un dessin. Et il y a des gens qui sont dans un club et c'est une scène de danse qui est assez magnifique. La pochette, elle est marron et on voit des corps comme ça. Et il y a une mezzanine et on voit que ça danse dans tous les sens et on a envie de la vivre, cette scène. On se dit...
On a envie d'entrer dans l'image.
On a envie d'entrer dans l'image. Donc, Criez moins, c'est vraiment un énorme clin d'œil à Marvin Gaye, tant dans l'interprétation que dans le texte. Parce que Marvin Gaye, c'était un ultra lover. Et c'est vrai que quand on s'est plongé dans les textes de Marvin Gaye, d'un seul coup, ça vous décomplexe complètement. On dit, bah, si je dis le dixième de ce qu'il dit, déjà, je me mets un peu à poil.
Rappelez-moi le titre de l'album qui vous a inspiré pour crier moins.
Ah, c'est I Want You.
Voilà.
Ouais.
C'était décomplexant.
Oui, de faire des déclarations d'amour. Parfois, on a du mal à le faire, même dans l'intimité. Je dirais que c'est peut-être même plus facile de le faire sur une chanson, parce que c'est plus large. L'histoire, c'est plus large.
Ça veut dire quoi, crier moins? Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson en créole?
Alors, crier moins, ça veut dire appelle-moi. Et en gros, cette chanson, elle dit... Si tu vas pas bien, appelle-moi, je serai toujours là, je vais te relever, je vais te porter, je vais t'aimer, je t'aime déjà. C'est vraiment, c'est le mec qui, en 10 secondes, s'emballe et fait une déclaration monumentale. Et ce qui est étonnant, c'est que la chanson ne devait pas du tout être sur l'album, parce que moi, je la trouvais trop... Trop mauve, trop mièvre, trop douce.
Trop mauve?
Non, mais je sais pas pourquoi j'ai dit mauve, mais c'est sorti. Moi, je viens plutôt... du hip-hop, etc. On est un peu comme ça. On dit pas. Et là, je me suis complètement lâché. Et donc, cette chanson, elle raconte ça. Je te parle.
Je t'aime, quoi.
Je t'aime. Voilà.
Alors, on écoute des éléments qui composent ce titre,
oui,
qui a failli ne pas exister.
Vous voulez tout le morceau en
non,
entier?
Ce que j'aimerais qu'on écoute d'abord,
c'est
la basse.
Ah, mais la basse, elle est là. La basse, c'est le morceau.
On va arrêter. Pourquoi vous dites la basse, c'est le morceau?
Ben, cette basse, c'est toujours la même du début à la fin du morceau. C'est le porte-avions du morceau. Si elle n'est pas là, le morceau ne tourne pas pareil. C'est le lien, la basse. Il n'y a pas beaucoup de notes, hein. Mais par contre... elle n'est pas facile à jouer.
Ah ouais?
Ouais, parce que c'est toujours la même chose. Jouer la même chose du début à la fin, c'est compliqué.
Ouais, il faut maintenir le cap. Hein.
Surtout la basse. Et la basse, ça marche avec la batterie. Et les deux, ils doivent être, ça doit aller tout droit et pas bouger pour créer une base. Et pour que tout le reste, finalement, tout ça, c'est un exercice quasiment pour mettre la voix en avant.
La voix qu'on met en avant dans Pop & Co ce matin, c'est celle de David Walters, avec qui on soulève le capot de la chanson « Criez moins ». C'est l'heure du point route, on a écouté la basse, maintenant on écoute le rythme, le truc qui fait...
Alors le rythme, déjà, il y a celui-là que j'aimerais vous faire écouter, parce que c'est une clave un petit peu caribéenne. Tac, 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 tac,
ouais.
Tac. Donc vous avez ça, ensuite on a ça. Celui-là, le pied.
Disco, ça.
Disco. Sinon,
Alors là, on bascule dans un truc...
plus électronique.
Ce qu'on appellerait la house, un peu.
Complètement la house. Ensuite, on a les claps qui amènent de la vie.
Là, on entre sur la piste de danse.
Alors, on avance sur la piste de danse. Et ensuite, il y a la percu. Les percus. Il y en a encore, hein. Voilà, il y a des tambourins aussi. Et si je remets la basse là-dessus, il y a des petites cloches là. Oui, attends. Il y a du monde en rythmique. Hein. Et ensuite, voilà. Et là, si je remets la basse.
Le morceau, il est là.
Le morceau, il est là. Il n'est pas que là, parce qu'il y a aussi il y a l'harmonie.
C'est quoi l'harmonie ?
L'harmonie, c'est les éléments mélodiques.
Ouais.
Sur quoi on va s'appuyer ? Alors là, il y a un clavier, c'est celui-ci. Ça, pour le coup, c'est un clavier vraiment deep house. Ça pourrait être... ça pourrait venir de Détroit.
Et d'ailleurs, si on met le mts, mts.
Avec ?
Ouais.
Alors, ça va. Là, on y est.
Là, c'est néon, c'est tout ça, quoi.
Là, c'est la nuit, on est dans le club. On est au club 54. Nelson, il descend, là. Ça y est, il a eu son coup de foudre. Il va pas tarder à faire sa déclaration. Voilà.
Il y a un moment dans le... Même régulièrement, tout au long du morceau, vous faites... Enfin, je fais très mal.
Ouh.
Ouais, c'est ça.
Comme ça, ouais. Alors. Plus ça vient comme un élément rythmique. Et ce petit hou, ça.
Hou.
Ça. C'est un instrument. De toute façon, la voix, c'est le premier instrument.
Est-ce qu'on peut écouter la piste vocale, justement ?
Ouais. Le refrain, vous voulez ?
Que menez-nous quand t'es qui belle ?
Il va pas tarder.
Ouais.
La lune levée puis éclaire le ciel.
La lune se lève et éclaire le ciel.
Qui mène nous côté qui perd.
Qui nous emmène à quelque chose de plus beau.
La langue créole, elle se fond dans tout ça, dans le côté à la fois club, musique électronique, funk, soul. Est-ce que vous chantez différemment quand vous chantez en créole que quand vous chantez en anglais? Parce qu'il y a un côté, il y a un côté moelleux, je trouve, dans la langue créole.
C'est un peu plus rond. Le créole, c'est une langue qui a été inventée pour ne pas être comprise.
Donc, pour ne pas être comprise de qui ?
Ben, des esclavagistes. Donc peut-être qu'il y a quelque chose où on dit les choses à demi-mot, comme ça, doucement, où on n'articule pas trop, peut-être pour pas que ce soit compris. On arrondit, un peu comme là, comme je suis en train de vous parler... Là, il n'y a que nous, là, on n'entend pas. Voilà, peut-être que c'est pour ça que c'est aussi rond, le créole.
Est-ce qu'on peut écouter successivement l'entrée des différents éléments ? Partons de la voix,
ouais.
Puis après la basse. Et, donc à partir du refrain, donc là pour le coup... Ouais.
La vie a mal tourné. On y criait moins, moi qui couille fini.
J'en sais le qui.
Mon cœur fait un bagage pao. La vie a que roulé, on y
Créole, c'est le nouvel album de David Walters, paru sur le label indépendant Heavenly Sweetness. David Walters sera en concert à Villeurbanne le 1er octobre, à Gap le 3 octobre aussi, au Martinique Jazz Festival entre le 28 novembre et le 6 décembre. D'autres dates sont sur le site de Pop & Co, P-O-P-N-C-O. Chaque semaine, cette émission est réalisée par Coy Nguyen avec Tristan Gratalon à la console ce matin. Ilinka Negulesco assure recherche de doc et de son et JB Audibert étoffe copieusement la programmation musicale. La semaine prochaine, on plonge dans un album de Prince et on sera en studio avec Arthur H. À samedi